qui régnèrent de la Méditerranée aux portes de l'Inde et firent de la Perse le premier empire monde de l'histoire. Personne ne doute désormais de la puissance de la Chine. Tous les jours, les journaux nous informent de ses impressionnantes capacités militaires, de ses innovations technologiques, de l'extraordinaire puissance de son économie, dont la croissance ou les refroidissements sont capables d'entraîner la planète à la hausse ou de la mettre à terre. La plupart d'entre nous ont du mal à comprendre l'origine de ce phénomène. Comment est-il possible qu'un pays qui semble avoir été arriéré depuis des siècles, un pays de misère où l'on ne circulait qu'à bicyclette il y a seulement 30 ans, ait réussi une progression aussi fulgurante? Les Chinois ne voient pas les choses de cette façon. Tous ont en tête un schéma historique qui est plus proche de la réalité. Leur vieil empire a été, de façon continue, depuis le début des grandes civilisations humaines jusqu'à la toute fin du XVIIIe siècle, la première puissance économique et commerciale mondiale. Et son effondrement, sous les coups de boutoir des Britanniques d'abord, puis des autres puissances impérialistes, ne date que du milieu du XIXe siècle. Les Chinois savent que la Chine d'aujourd'hui ne fait que refermer une parenthèse, douloureuse mais courte, pour retrouver sur le podium une place qu'ils voient comme naturelle, puisqu'elle a toujours été la sienne. À partir du XVIe siècle, l'Europe a connu une expansion fulgurante qui lui a permis de conquérir la quasi-totalité de la planète. Cette domination s'est achevée au XXe siècle, dans le fracas des deux guerres mondiales que le petit continent a provoquées. À la suite de la seconde, les États-Unis et l'URSS ont pris le relais. Ils se sont partagés le globe au nom de deux systèmes idéologiques hérités de la pensée européenne. Pendant longtemps, donc, les Européens, avec orgueil, ont pu croire que la connaissance de leur propre passé, de leur propre culture, pouvait suffire à comprendre l'univers, puisque seule leur façon de penser semblait y régner. L'effondrement de l'URSS a mis fin à cette glaciation bipolaire du monde et rendu cette prétention caduque. À tout moment dans notre siècle, de nouvelles ou d'anciennes puissances, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine, les grands pays musulmans, l'Indonésie, l'Arabie Saoudite, montrent leur capacité à peser sur le destin commun de l'humanité et nous rappellent que le monde a changé. L'histoire globale. Cela fait plusieurs décennies déjà que la recherche historique a pris en considération cette manière de voir. Depuis plus de 20 ans, aux États-Unis d'abord, puis un peu partout, de grands universitaires ont développé une nouvelle branche de l'histoire qu'on appelle encore parfois de son nom anglais d'origine, la Global History, ou en français, l'histoire globale. Les sous-catégories qu'elle recouvre sont complexes. Son principe de base est simple. Il consiste à regarder l'histoire du monde dans sa réalité multiple, c'est-à-dire en cessant de se contenter du seul point de vue occidental qui a trop longtemps prévalu. Tous les petits Européens ont appris à l'école l'histoire de Vasco de Gama, le hardi navigateur portugais qui, le premier, contourna l'Afrique pour atteindre la côte de l'Inde et en rapporter des épices. Certes, admet la Global History, mais pourquoi ne pas tenter aussi de lire cet événement à travers les sources indiennes et voir comment l'arrivée a été perçue par les marchands et les autorités du port où il a accosté. Ne déflorons rien pour l'instant de ces recherches, nous y reviendrons en temps et en heure. Contentons-nous de dire que, dans cet exercice, comme dans beaucoup d'autres, le malheureux orgueil occidental risque d'en prendre un coup. Citons l'exemple de la guerre de 1914-1918. La plupart des peuples européens s'en font une idée très nationale. Les Français la voient comme un énième conflit avec l'Allemagne, les Allemands au départ étaient focalisés sur l'éternel ennemi slave, etc. Et le plus généralement strictement européenne. Pourquoi ne pas ouvrir la focale jusqu'au plan très large, demandera la Global History. En balayant le champ jusqu'à l'Extrême-Orient, par exemple, on découvre que les guerres qui opposèrent Russes et Japonais au début du XXe siècle furent essentielles dans la formation des alliances entre les puissances qui